D'habitude, quand on parle de l'effet papillon, on a tout de suite cette image un peu poétique en tête. Genre, un papillon bat des ailes au fin fond de l'Amazonie, et hop, des semaines plus tard, ça déclenche une tornade monumentale de l'autre côté du globe.
Ouais, c'est la base de la théorie du chaos. L'idée qu'une toute petite variation dans un système hyper complexe peut avoir des conséquences complètement dingues et imprévisibles à la fin.
Exactement. Sauf que si on ramène ça à notre époque, bah, le battement d'ailes, c'est plus du tout naturel. C'est devenu juste un simple clic de souris.
Et la tornade derrière ne déracine pas des arbres, pour le coup.
Ah ça, non. La tornade, c'est une immense enquête internationale, des agences fédérales sur le coup dans 3 pays différents et des millions de dollars saisis. C'est justement la mission de notre plongée d'aujourd'hui.
Et c'est une mission fascinante. Comprendre comment un achat sur le net, un truc d'une banalité affligeante, a pu créer un séisme géopolitique pareil.
Voilà, c'est le but. Démystifier ce fameux dark web sans se noyer dans le jargon technique. Et pour ça, on a une sacrée pile de documents sur la table.
Oui. Avec en pièce maîtresse, cette enquête de mars 2026, Dark Web, l'empire criminel mondial.
Écrite par le journaliste Mohamed Haïd Belhassen. Et ce qui est génial, c'est que c'est publié sous forme de fanzine. C'est pas un grand média traditionnel.
D'ailleurs, ça résonne vachement avec une autre de nos sources, un appel à contribution pour un fanzine alternatif qui s'appelle Pixel Zero. Ça montre bien le retour du journalisme DIY et indépendant.
Complètement. Et pour finir, on a aussi la couverture d'un livre, L'exception historique. Pourquoi les États-Unis ne s'effondrent jamais? On y reviendra, mais c'est crucial pour la partie géopolitique.
Oui, parce que pour vraiment capter cette économie numérique occulte, il ne faut pas commencer par regarder des lignes de code. Il faut regarder l'acte d'achat le plus basique.
C'est clair. Alors, plongeons directement dans l'incident déclencheur. L'histoire d'Anthony Coronadi. Le gars a pas du tout le profil d'un baron de la drogue, hein?
Pas le moins du monde. C'est juste un jeune Américain passionné de muscu avec un casier vierge.
Ouais, il veut juste progresser plus vite à la salle. Du coup, il se dit « je vais acheter des stéroïdes ». Il cherche en ligne, trouve le produit, l'ajoute à son panier et il paye en crypto.
Pour lui, c'est aussi anodin que de commander les baskets ou de la protéine en poudre sur un site classique.
Exactement. Le colis finit par arriver dans sa boîte aux lettres. Sauf que, et c'est là que ça dérape dedans, il n'y a pas que ces stéroïdes. Il y a des preuves matérielles d'un énorme réseau international que les flics pistaient depuis des mois.
C'est ce qu'on appelle la fatalité numérique. Ce petit geste isolé le transforme sans qu'il s'en rende compte en maillon final d'une chaîne criminelle mondiale.
Bon, décortiquons tout ça. Parce que l'interface qu'Anthony a utilisée, c'est pas du tout la ruelle sombre avec le mec louche sous un lampadaire.
Ah non, on en est très très loin aujourd'hui. L'enquête d'Haïd Belhassen détruit complètement ce mythe. Le dark web de 2026, c'est du e-commerce pur et dur.
Mais c'est bluffant. C'est carrément Amazon, le truc. T'as des fiches produits super détaillées, des photos en haute définition, des descriptions sur la pureté des produits.
Et même un système d'avis client, avec les petites étoiles et tout.
C'est ça? T'as des commentaires du genre « livraison rapide »,« vendeur sérieux »,« 5 étoiles ». Et ils ont des politiques de remboursement si le colis se perd.
Oui. Et un service client hyper réactif via messagerie chiffrée. Mais le plus fou, c'est leur système de dépôt de garantie, l'escroc.
Ah oui, l'escroc. En gros, l'argent de l'acheteur est bloqué par la plateforme, c'est ça?
C'est exactement ça. L'argent n'est versé au vendeur que quand l'acheteur confirme qu'il a bien reçu la marchandise.
Vu qu'ils ne peuvent pas s'amener au tribunal de commerce s'il y a une arnaque, ils ont été obligés de créer un système de confiance infaillible. C'est fascinant.
Et la leçon numéro 1 du document, elle est là. Cette professionnalisation extrême, ça abaisse drastiquement la barrière à l'entrée.
C'est-à-dire?
Ben, avant, pour acheter des trucs illégaux, fallait connaître du monde, prendre des risques physiques. Là, il n'y a plus aucune friction. La naïveté d'Anthony, c'est pas une anomalie, c'est leur business model.
Donc le but, c'est vraiment la banalisation totale de l'acte illégal. Tu commandes ta drogue depuis ton canapé le dimanche après-midi.
Voilà. En rendant ça confortable, ils élargissent leur marché cible de façon exponentielle.
Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Une simple connexion Internet et paf, t'es dans un trafic international. Mais du coup, vu que l'interface est si familière, qui tire les ficelles derrière la boutique?
L'enquête met en lumière un contraste assez dingue entre les acteurs du réseau.
Ouais, d'un côté on a Amanda, une Britannique ordinaire de la région de Coventry. Elle cherchait juste un moyen de boucler ses fins de mois.
Et elle a répondu à une annonce super classique de travail à domicile.
Son boulot, c'était juste de réceptionner des colis, imprimer une nouvelle étiquette et réexpédier le tout. La fameuse mule postale.
C'est ça. Et à l'autre bout du spectre, tout en haut de la pyramide, on a Liston, le présumé cerveau de l'opération, basé en Inde, qui brasse des centaines de millions.
Ce qui est fascinant ici, c'est le grand écart entre ces deux mondes.
Pas tout repose sur l'OPSC, la sécurité opérationnelle. Le principe, c'est le cloisonnement total de l'information. Amanda, c'est infusible, elle est remplaçable et elle sait strictement rien des enjeux.
Et c'est tragique parce que l'enquête de la National Crime Agency britannique montre bien qu'ils ne recrutent pas au hasard. Ils ciblent la précarité. Des gens frappés par l'inflation qui voient une annonce de télétravail qui a l'air super pro.
La détresse sociale est littéralement devenue la matière première logistique de ces réseaux.
Mais attends, je t'arrête deux secondes sur Liston. Parce que l'enquête dit qu'il coordonne tout depuis l'Inde, que tout est chiffré. Mais il n'y a aucune photo de lui. Aucune preuve physique.
C'est vrai. C'est un vrai fantôme.
Donc, est-ce qu'on peut remettre ça en question ? Pourquoi on part du principe que c'est un seul mec ? Le cliché du parrain intouchable, c'est un peu has-been, non ? Ça pourrait pas être un collectif d'investisseurs ou un truc décentralisé ?
C'est une hypothèse hyper pertinente. Dans le monde numérique, l'identité, ça se fabrique et ça s'efface en un clic. Liston, c'est probablement juste une marque, une façade.
Une sorte de conseil d'administration clandestin, en fait.
Exactement. On appelle ça des architectes invisibles. Des développeurs, des logisticiens, des financiers qui bossent en réseau. Et ça rejoint d'ailleurs ce que défend le fanzine Pixel Zero.
Ah oui, sur le fait que les médias traditionnels cherchent toujours un grand méchant avec un visage à mettre en une.
Alors que la réalité, c'est que le crime moderne a la même structure fluide et agile qu'une boîte de la Silicon Valley.
D'accord, donc on a ces architectes invisibles. Mais comment ils font techniquement pour pas se faire repérer direct par les services de renseignement ?
Tout repose sur deux piliers. Le réseau Tor pour communiquer et les crypto-monnaies pour payer. Sans ça, tout s'écroule.
Bon, commençons par la crypto. L'enquête clarifie un truc hyper important, parce qu'il y a un mythe énorme sur le Bitcoin.
Ah oui, l'idée que le Bitcoin est totalement anonyme, c'est faux.
C'est même l'inverse, non ?
C'est pseudonyme, mais la blockchain est un registre public, transparent et ineffaçable. Si la police arrive à lier ton adresse Bitcoin à ton nom, c'est fini. Ils voient tout ton historique. C'est de la forensique de base.
Alors que le Monero, c'est une autre histoire.
Le Monero a été codé spécifiquement pour être totalement privé. En gros, ça mélange la signature de l'expéditeur avec d'autres, ça cache le montant et ça crée une adresse de destination à usage unique.
Un vrai trou noir pour les enquêteurs, donc la finance est invisible. Et pour la navigation, avec Tor, j'adore l'analogie de l'enquête avec le fameux routage en oignon.
Oui, c'est la meilleure façon de le visualiser.
En gros, imagine, tu dois envoyer un colis ultra secret dans une ville bourrée de caméras. Au lieu d'y aller direct, tu mets le colis dans un premier taxi.
Qui serait le nœud d'entrée du réseau.
Voilà. Ce taxi va jusqu'à un tunnel complètement plongé dans le noir. À l'intérieur, le colis passe dans un deuxième taxi. Et ensuite, dans un parking souterrain, il passe dans un troisième taxi qui va faire la livraison finale.
Le nœud de sortie.
C'est ça. Le premier chauffeur sait qui a envoyé le truc, mais pas où ça va. Le dernier sait où ça va, mais pas qui l'a envoyé. Personne n'a le trajet entier en tête.
C'est digne d'un film d'espionnage. Et pourtant, malgré le Monero, malgré Tor, le réseau de Liston est tombé.
Mais c'est ça le point de bascule incroyable. T'imagines qu'il a fallu un super calculateur de la NSA pour casser le code, et en fait, pas du tout. Ils sont tombés à cause d'un putain de code postal.
Le fameux facteur humain.
Une adresse de livraison à Coventry. L'adresse d'Amanda, la mule, qui recevait tellement de colis que ça a fini par biper sur les radars des douanes.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est la règle d'or de la cybersécurité. La technologie ne flanche presque jamais. C'est l'humain qui craque.
Mettre en place l'OPSEC, c'est une chose. S'y tenir tous les jours, c'est impossible.
Un colis mal étiqueté, un mec qui oublie d'activer son VPN dans un Starbucks ou un bout de crypto sale utilisé pour payer un abonnement Netflix légal. Dès qu'il y a un contact avec le monde physique, les enquêteurs s'y engouffrent.
La plus grande faille, c'est toujours l'humain derrière l'écran. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que la police a tiré sur ce fil et que le réseau est exposé, bah, on a un crime qui n'a pas de frontières.
Un vrai cauchemar diplomatique.
On récapitule. L'acheteur est aux États-Unis, la mule est au Royaume-Uni et le cerveau est en Inde. Trois pays, trois systèmes de justice différents. Et à des centaines de millions en crypto sur la table. Qui garde l'argent ? Qui juge qui ?
Et c'est là qu'on voit les limites de notre système mondial. La criminalité est instantanée, fluide. Et la justice, elle, est bloquée par des frontières du 19e siècle. La Convention de Budapest sur la cybercriminalité date de 2001, tu te rends compte ?
À l'échelle d'Internet, 2001, c'est carrément le Jurassique. Et c'est là qu'intervient la couverture du livre de notre pile de sources. L'exception historique. Pourquoi les États-Unis ne s'effondrent jamais ?
C'est la parfaite illustration de ce qui se passe. La nature a horreur du vide. Comme il n'y a pas de vraie justice transnationale efficace, les États-Unis imposent leurs propres règles.
Ils ont une approche extraterritoriale hyper agressive, non?
Exactement. Le FBI, la DEA, le FinCEN, ils projettent leur juridiction sur le monde entier.
Mais comment ils forcent la main de pays souverains comme le Royaume-Uni ou l'Inde?
En utilisant le poids du dollar et l'accès à leur système financier. C'est une hégémonie systémique brute. Ils vont dire « bah, une fraction de Bitcoin est passée par un serveur américain, donc on rafle la mise ».
Et les autres pays subissent? Le Royaume-Uni, post-Brexit, est un peu isolé et l'Inde essaie de se protéger, mais finit par céder face à la menace de sanctions économiques. C'est un pur bras de fer.
La loi du plus fort, oui.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Parce que pendant que les États se chamaillent sur les règles, le crime n'attend pas. L'enquête parle de l'évolution vers le CAS.
Le Crime as a Service, oui. C'est un marché souterrain estimé par Europol à 8 000 milliards de dollars par an.
8 000 milliards, ça dépasse le PIB d'un paquet de pays réunis. Comment ça va évoluer à court terme?
Cela soulève une question importante, avec l'arrivée de l'IA générative. C'est la nouvelle course aux armements.
L'automatisation totale du crime.
C'est ça. Fini le recrutement manuel de mules comme Amanda. Les algorithmes scannent les réseaux sociaux, repèrent les profils précaires, génèrent des fausses offres d'emploi ultra persuasives dans toutes les langues et mènent même les entretiens via des chatbots.
Des faux documents parfaits, des deepfakes vocaux pour tromper les banques. C'est l'industrialisation à l'extrême. Mais j'imagine que la police utilise aussi l'IA, non?
Évidemment. Les polices utilisent l'IA pour traquer la blockchain en temps réel, analyser Tor. C'est littéralement une guerre d'algorithmes où les humains regardent les machines se battre.
Mais au milieu de cette guerre, il y a nous, les citoyens. Si l'IA peut cibler notre moindre vulnérabilité, ça veut dire que l'État ne peut plus nous protéger à 100%.
Et c'est là qu'intervient l'hygiène numérique. La protection devient individuelle. C'est presque un devoir civique. Parce que la naïveté numérique de gens comme Anthony, c'est devenu une vulnérabilité collective.
C'est fou. Bon, pour essayer de résumer cette exploration, on est parti d'un jeune sportif naïf qui veut des stéroïdes, et ça a levé le rideau sur un empire tentaculaire.
Un empire où les cartels ressemblent aux meilleures startups de la Silicon Valley, oui.
Avec un service client de dingue, des livreurs précaires exploités, des dirigeants fantômes, et ça force même les États-Unis à jouer les shérifs du monde.
Pour conclure, Lakshi, il y a une réflexion super intéressante dans les notes de l'auteur du fanzine. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout...
Ah oui, vas-y.
Vu que la criminalité s'est calquée avec une perfection absolue sur le capitalisme numérique légal, dérégulé et ultra rapide, peut-être que le problème, c'est pas juste comment arrêter le dark web.
C'est plutôt de se demander si notre propre système économique n'a pas créé le monstre, c'est ça?
Voilà, notre désir constant d'avoir tout, tout de suite, sans aucune friction, n'a-t-il pas construit l'infrastructure exacte dont le crime organisé a besoin pour prospérer?
C'est vertigineux, en fait. Le confort ultime du consommateur, l'achat en un clic, serait devenu la meilleure arme du criminel. Franchement, ça donne vraiment à réfléchir avant de valider sa prochaine commande en ligne.